franceinter.fr.
Marcel !
L'adolescence est le seul temps où l'on ait appris quelque chose.
Vous devriez retourner à Balbec. C'est si vivifiant.
Un été avec Proust. Une émission de Laura El Maki.
L'adolescence est le seul temps où l'on ait appris quelque chose. Le roman de Marcel Proust est la traversée d'une vie, celle du narrateur qui gravite autour de plusieurs personnages et que l'on voit grandir et évoluer à différents âges. Dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs, nous le retrouvons adolescent à Balbec. Il accompagne sa grand-mère dans cette station balnéaire qui deviendra pour lui la ville de toutes les rencontres, celles qui vont marquer à jamais son existence. C'est là-bas qu'il fait la connaissance de Robert de Saint-Loup, de Charlus, du peintre Elstir, mais surtout d'Albertine Simonet. Balbec, associé à cet âge certes ridicule, mais très fécond selon le narrateur, est donc le lieu des révélations et des apprentissages. Un lieu mystérieux qui apparaît à deux reprises dans La recherche du temps perdu et qui évoque les séjours que Proust a faits sur la côte normande, dans la belle ville de Cabourg. Ce soir donc, après le Combray imaginaire de l'enfance, nous prenons un aller simple pour une autre ville fantasmée, une terre d'initiation sentimentale et artistique, au nom plutôt oriental. Nous partons à Balbec avec Michel Herman.
L'été, comme tous les bourgeois, les bons bourgeois de Paris, on allait au bord de la mer. Et là, je dois vous dire, c'était Cabourg. Quand même à Cabourg, j'ai eu une bonne surprise, ou plutôt j'ai fait une bonne rencontre. Figurez-vous qu'il y a un grand hôtel à Cabourg, qui est du style, si vous voulez, 1910. On dirait une pâtisserie. Et quand j'étais enfant, enfin, si vous voulez, adolescent, il y avait une légende qui courait à Cabourg. On parlait d'un homme très singulier, et on disait, cet homme est bizarre, il loue, non pas une chambre, mais cinq chambres. Une au-dessus de sa chambre, une à droite, une à gauche et une en dessous, pour ne pas entendre de bruit. Et cet homme, je ne vous le cache pas, c'était Marcel Proust. Il était très surprenant, parce que moi, j'étais comme les enfants, je me levais le matin de bonne heure et j'allais sur la plage. Mais lui ne sortait qu'au coucher du soleil. Et encore, il fallait que le soleil soit bien couché, parce qu'il avait très peur. Il sortait en plus de ça avec un parapluie pour être sûr de ne pas avoir des rayons du soleil. Mais quand le soleil était couché, tout à coup, il reprenait vie. Il devenait absolument un homme absolument éblouissant et merveilleux. Il offrait des banquets et des cigares, et pourtant, il ne fumait pas le cigare, et même il souffrait de la fumée. Mais il était si gentil qu'il acceptait qu'on fume le cigare et qu'on soit à sa table. Eh bien, il offrait des dîners à ses amis et connaissances. Mais moi, j'avais une introduction tout à fait particulière. C'est que ma mère et ma tante étaient parmi les jeunes filles en fleurs. Et ma tante avait ceci de particulier, c'est qu'elle avait les yeux violets, ce qui est assez rare. Et Marcel Proust me disait toujours, comment va votre tante qui a les yeux violets ?
Bonsoir Michel Herman.
Bonsoir.
Nous venons juste d'entendre l'écrivain surréaliste Philippe Soupeau évoquer sa rencontre avec Proust. Il a eu la chance incroyable de le croiser à Cabourg, petite ville du Calvados, qui se trouve en bord de mer, et qui fut l'un des modèles de Balbec. Je dis l'un parce qu'il y en a peut-être plusieurs. Alors pourquoi Proust aimait-il tant cet endroit qui fut un lieu de villégiature pour lui, mais aussi un lieu d'écriture parce qu'il y a écrit quelques pages de La Recherche ?
Oui, alors c'était la côte normande. Proust y était allé durant son enfance. Très souvent en vacances, à Dieppe, à Cabourg, à Trouville, tout simplement parce que, à la belle époque, la côte normande, c'était un lieu de villégiature pour la bonne société. On allait au bord de la mer, on ne se baignait sans doute pas comme aujourd'hui, on y allait parfois pour des raisons thérapeutiques, on disait que Thalassa avait des vertus thérapeutiques. Et donc dans le roman, le premier séjour que fait le héros narrateur à Balbec, à l'âge sans doute d'à peu près 16-17 ans, c'est également pour faire une cure de bain de mer. Et dans la réalité, Proust y est allé parce qu'il cherchait à quitter Paris. dont l'air était en été pour lui irrespirable. Et ses médecins lui avaient conseillé de partir en villégiature durant l'été. Et voilà, il est allé pour ces raisons parce qu'il y avait été assez heureux dans sa jeunesse.
Alors Balbec est le second lieu imaginaire ou pseudo-imaginaire de la recherche, un peu comme Combray. Il y a une très belle page dans... à la fin de Du côté de chez Swann, une rêverie autour de ce nom qui va être la cause d'une certaine déception, hein, parce que quand il ira pour la première fois à Combray, le narrateur sera déçu de cette ville.
Oui, Balbec, c'est comme Venise, dont on parlera un jour prochain, je crois, c'est un lieu désiré, un lieu rêvé. Alors pourquoi c'est un lieu rêvé ? Ben parce que, nous sommes dans le roman maintenant, Swann en particulier a parlé de Balbec, au jeune Marcel, à Combray, et il lui en a parlé en particulier en lui disant qu'il y avait une église romane ou gothique, il y a une petite hésitation, mais de style persan, hein, qui est dressée sur une falaise au bord de la mer, presque livrée au flot. Et donc, le jeune héros, à Combray, rêve d'aller à Balbec. Il rêve de prendre le train à la gare Saint-Lazare et d'aller à Balbec, en particulier pour découvrir cette église. Hein, on revient à ce que l'on disait hier de l'église comme un lieu archétypal de la mémoire et de la beauté.
Mais le lieu archétypal, le lieu central en tout cas de Balbec, ce ne sera pas l'église, ce sera le Grand Hôtel.
Non, ce ne sera pas l'église, parce que finalement l'église est assez décevante. Hein, elle n'est pas du tout ce qu'elle est dans la réalité. Ce sera le Grand Hôtel. Et ce Grand Hôtel de Balbec, en réalité Cabourg, hein, mais on parle de Balbec, pourquoi ? Par une sorte de collusion entre deux noms. Balbec, à cause de la ville de Balbec au Liban, puisque la ville est au départ dans une imagination persane, et puis la ville normande réelle de Bolbec. Voilà. Donc le nom de Balbec, c'est un nom à la fois imaginairement persan et réellement normand. Et donc Proust séjourne dans la réalité, donc Proust a séjourné au Grand Hôtel à Cabourg, et le narrateur séjourne au Grand Hôtel de Balbec. Et au Grand Hôtel de Balbec, eh bien, il y a toute une société, effectivement, qui fréquente l'endroit. Puis il y a également sur la digue, car le narrateur, au contraire de Proust, sort quand même dans la journée, il y a une cohorte de jeunes filles qu'il va rencontrer.
Un été avec Proust, Michel Hermant, Laura Elmaki.
Balbec s'insère dans la structure de la recherche de manière assez particulière. Elle ponctue, la ville ponctue le texte à deux reprises. C'est un point d'ancrage sur la carte des lieux proustiens qui marque le temps de l'adolescence.
Oui, on peut dire que Combray, c'est l'enfance. Et Balbec, c'est l'adolescence. Alors, vous savez, Proust n'aimait, enfin, le narrateur, en tous les cas, n'aime pas beaucoup les dates. Hein, rien n'est effectivement daté. Donc, on est obligé de faire une chronologie relative. Et c'est l'adolescence, les premiers émois amoureux. Et aussi les premiers émois, je dirais, esthétiques construits. Puisque il va rencontrer également la deuxième rencontre importante, après celle des jeunes filles et d'Albertine, c'est la rencontre du peintre Elstir. Balbec, en deux mots, c'est une lumière, la lumière normande. Et ce sont des jeunes filles.
Alors cette lumière, le narrateur en parle de manière tout à fait merveilleuse dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Donc il est arrivé dans ce grand hôtel, il est dans sa chambre. La veille, donc il a été très déçu par cette ville. Et le matin, il se réveille et il voit à sa fenêtre la mer qui lui apparaît tout à fait lumineuse justement et majestueuse. On écoute Lambert Wilson qui nous lit un extrait.
Après qu'un domestique fut venu m'éveiller et m'apporter de l'eau chaude, et pendant que je faisais ma toilette et essayais vainement de trouver les affaires dont j'avais besoin dans ma malle, d'où je ne tirais pêle-mêle que celles qui ne pouvaient me servir à rien, quelle joie, pensant déjà au plaisir du déjeuner et de la promenade, de voir, dans la fenêtre et dans toutes les vitrines des bibliothèques, comme dans les hublots d'une cabine de navire, la mer nue, sans ombrage, et pourtant à l'ombre sur une moitié de son étendue, que délimitait une ligne mince et mobile, et de suivre des yeux les flots qui s'élançaient l'un après l'autre, comme des sauteurs sur un tremplin. À tout moment, tenant à la main la serviette raide et empesée où était écrit le nom de l'hôtel, et avec laquelle je faisais d'inutiles efforts pour me sécher, Je retournai près de la fenêtre, jetai encore un regard sur ce vaste cirque éblouissant et montagneux, et sur les sommets neigeux de ces vagues en pierre d'émeraude, çà et là polies et translucides, lesquelles, avec une placide violence et un froncement léonin, laissaient s'accomplir et dévaler l'écroulement de leurs pentes, auxquelles le soleil ajoutait un sourire sans visage. Fenêtre à laquelle je devais ensuite me mettre chaque matin, comme au carreau d'une diligence dans laquelle on a dormi, pour voir si, pendant la nuit, s'est rapprochée ou éloignée une chaîne désirée. Ici, ces collines de la mer qui, avant de revenir vers nous en dansant, peuvent reculer si loin que souvent, ce n'était qu'après une longue plaine sablonneuse que j'apercevais à une grande distance leurs premières ondulations, dans un lointain transparent, vaporeux et bleuâtre, comme ces glaciers qu'on voit au fond des tableaux des primitifs toscans.
La découverte de la mer par le narrateur, c'est une véritable révélation pour lui. Et on est face à une description d'une beauté quasi surréaliste. C'est peut-être faux de dire ça, mais il compare quand même les vagues à des montagnes. Il y a quelque chose d'assez visionnaire aussi.
Ben, moi, je dirais que c'est une description impressionniste. C'est l'œil impressionniste du peintre Elstir qui est là dans les mots du narrateur. Et où voit-on, au fond, dans la réalité, si on n'a pas cet œil impressionniste? Où voit-on ces marines dans la peinture, hein, que ce soit la peinture de Turner ou de Monet? Moi, je pense que c'est beaucoup plus proche de Whistler et de Monet que de Turner. Bon. Alors, ce qui est intéressant aussi du côté de l'impressionnisme, c'est qu'à part la nuance bleuâtre, rien ne concerne la couleur. Tout est, au fond, dans cette description, dans cette vision, déterminé par les effets de lumière, qui font à un moment se confondre les vagues et l'horizon, et qui l'amènent effectivement à des images un petit peu surréalistes, parce qu'on passe finalement de la mer à la montagne. Voyez, donc cette lumière impressionniste, qui est celle-là du prisme du regard, eh bien on va le retrouver dans le roman, dans la peinture d'Elstir.
Justement, la rencontre d'Elstir va être déterminante parce qu'en regardant ses tableaux, il va se rendre compte aussi de cette démarcation qui n'existe plus entre le ciel et la mer. Elstir peint le ciel et la mer en une seule et même couleur.
Voilà, et Elstir, c'est le peintre qu'il va rencontrer tout à fait par hasard. Et il va essayer de se faire présenter et il va être invité dans son atelier. Et donc, Elstir, c'est le peintre qui montre de quelle manière on voit. Et montrer de quelle manière on voit, pour Proust, c'est montrer de quelle manière on crée, on écrit. Voir veut dire écrire. D'ailleurs, Proust disait, le style, c'est une question de vision. Et il y a donc un tableau, il y en a plusieurs, mais il y a un tableau d'Elstir important qui s'appelle le port de Carquetuit. Et dans ce port de Carquetuit, on voit que une longue description où dans laquelle la lumière baigne les différents motifs terrestres, maritimes, jusqu'à en quelque sorte les confondre. En sorte que, c'est ça qui est merveilleux, en sorte que les reflets des bateaux, les reflets de la côte, semblent plus matériels, plus solides que les objets eux-mêmes, que les bateaux eux-mêmes. Voilà, Elstir montre de quelle manière on voit, il place son regard dans l'objet. Il se laisse par l'impression impressionner, immerger, si on peut dire, dans l'objet, et en quelque sorte, il construit son regard à partir de cette impression.
Alors si Balbec est le lieu de l'apprentissage d'une certaine beauté, la révélation d'une certaine beauté de la nature, c'est aussi la révélation de la beauté des femmes, pour ce narrateur adolescent qui rencontre les jeunes filles en fleurs et surtout qui rencontre Albertine, qui à jamais sera inséparable de ce paysage de Balbec.
Oui, c'est le lieu des premières amours, je dirais des premières amours réelles, des premiers flirts. Lors du second séjour, des émotions érotiques. C'est l'occasion de dire aussi que la recherche du temps perdu, contrairement aux clichés, les jeunes filles sont des jeunes filles. Le corps féminin est, je dirais, à l'honneur dans la recherche du temps perdu. Alors bien sûr, il l'est à travers le désir du héros narrateur. Bien, et les jeunes filles ne sont pas des jeunes gens déguisés. Et donc, surgissent à Balbec, sur la digue, une cohorte de 4 ou 5 jeunes filles,
Qui sont joueuses, hein, qui
alors qui portent rient, qui portent leur bicyclette, en particulier Albertine à côté d'elle là, sur la digue, qui portent des raquettes de tennis et des clubs de golf. Ce sont des jeunes filles à la beauté sportive, presque sculpturale, qui sont en quelque sorte également très libres dans leur corps. Elles sont audacieuses d'ailleurs, l'une d'elles bouscule un monsieur qui est là sur son chemin, hein. Elle le bouscule en disant « ce vieux-là, qu'est-ce qu'il fait là ?» Elles sont non pas vulgaires, mais elles se montrent telles qu'elles sont.
Et c'est en cela qu'elles impressionnent beaucoup le narrateur notamment.
En ce sens-là, elles impressionnent beaucoup le narrateur, et en particulier, il y en a une qui lui apparaît, bien qu'il aura des flirts avec plusieurs d'entre elles. Il tombe amoureux d'une jeune fille, c'est la fameuse Albertine, voilà, et qui sera pour lui indissociablement liée au paysage marin. Et elle va prendre bien des visages, notamment le visage de la trahison, le visage du mensonge, etc. Mais l'image de la jeune fille sur la digue à Balbec devant la mer sera l'image continue, l'image permanente du sentiment amoureux.
Les personnages qui sont donc indissociables de certains lieux, nous aurons l'occasion d'approfondir cette idée demain soir, puisque nous parlerons de Paris, un lieu capital de la recherche. Merci beaucoup, Michel Armand, et à demain donc. Bonne soirée.
Des adieux à la chaîne, des messages où l'on salée de la grève fait rougir l'océan, le temps fait machine arrière, dans son dos le printemps coule la langue amère. Sur les bancs où l'on aime, marche ou crève, pleure mon cœur imbécile, les lettres ouvertes du temps, au cueil mon cœur dans ses lignes, les fleurs.
Les fleurs fanées dans les Merci Laura Elmaki. À demain avec La ville de Paris imaginée par Proust. Bonne soirée sur France Inter. Place à présent à Vincent Josse, une nouvelle diffusion du 15 juin 2013 avec l'atelier de Giuseppe Pennone.